Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Marie Valogne.
Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour décrypter le monde de la pub et l'actualité des marques. Aujourd'hui, retour sur les Guerretti Awards. Le palmarès a été dévoilé cette semaine. À nouveau, les campagnes engagées ont été récompensées. On notera aussi dans cette édition la diversité de la création publicitaire dans le monde. Nous recevons dans un instant Alexandra Evan, la vice-présidente de Publicis Conseil, membre du grand jury des Guerretti Awards. Charlotte Bricard nous ouvrira l'appétit. Notre chroniqueuse nous parlera de Quick dans son édito, une marque qui ne veut pas se faire manger pour ses 50 ans. Et puis, zoom sur le roi sandwich de l'humour. Burger King dévoile une nouvelle publicité décalée avec Fred Testo. La dérision est-elle la recette du succès en communication? Nous poserons la question à Alexandre Simon, directeur marketing de Burger King France. Voilà le programme, on commence cette émission comme d'habitude avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme tous les week-ends, j'accueille avec grand plaisir le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marie.
Et cette semaine, nous allons faire le tour de l'actu avec Rebecca Blanc-Lelouch de la rédaction de BFM Business. Bonjour Rebecca.
Bonjour Marie.
On commence Rebecca avec cette info de l'ACC suite à la démission de Laurent Habib visée par des témoignages de harcèlement relayés sur le compte Instagram Balance ton agency. Eh bien, l'association des agences conseils en communication vient de nommer une présidence par intérim.
Oui, ce sont donc Bertie Toledano, la présidente de BETC, et David Leclabar, président de l'agence Australie, qui reprennent la tête de l'association par intérim. Selon le communiqué, ils s'occuperont de porter les engagements et les nouveaux projets de l'ACC. Les deux nouveaux dirigeants soulignent que l'association se veut avant tout être une force de progrès, aussi bien sur la question du harcèlement que sur celle des égalités hommes-femmes ou de la diversité.
Et Frédéric, comment peut-on analyser cette réaction de la part de l'ACC ?
Probablement comme la meilleure qu'ils pouvaient avoir. Ils étaient un peu dans un corner parce que leur président a dû démissionner, un peu poussé par les accusations portées sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'ACC, c'est un syndicat patronal. C'est le syndicat qui représente les agences de publicité. Il y a une crise dans ce secteur. Nommer une présidence bicéphale et paritaire est plutôt la meilleure chose. Ce sont des jeunes, plutôt jeunes dirigeants. Donc maintenant, évidemment, c'est l'épreuve des faits qui dira si c'est vraiment une bonne décision.
On suivra ça. Rebecca, on passe à votre coup de cœur de la semaine, c'est la campagne de LinkedOut qui lance sa deuxième promotion de personnes en précarité. Ils sont 80, racontez-nous.
Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, LinkedOut, c'est un réseau social, c'est une sorte de LinkedIn pour les personnes qui n'ont pas de réseau, pour les personnes qui sont en situation de grande précarité et qui cherchent du travail. La plateforme met en ligne les CV et les compétences des candidats pour qu'ils soient ensuite possibles pour n'importe quel internaute, de partager leur profil. Et cette année, l'association Entourage avec TW à Paris a créé un spot vidéo qui a pour but de nous inciter à repartager les profils de cette deuxième promo sur nos réseaux professionnels et pour augmenter la visibilité, donc les opportunités d'emploi.
Et puis la bonne nouvelle pour LinkedOut, c'est le voilier qui participera à la Coupe mythique du Vendée Globe qui portera le nom et les couleurs du site pour encore plus de visibilité départ de la course, donc le 8 novembre. On passe à une campagne de sensibilisation poignante dévoilée cette semaine, celle de l'Agence de la biomédecine qui interpelle les Français sur le don d'organes, Rebecca.
Oui, c'est un court-métrage assez choc, réalisé par Thomas Caillé avec DDB Paris, qui met en scène la mort d'un enfant et surtout le moment assez terrible où on l'annonce aux parents, où le personnel hospitalier l'annonce aux parents. Et sur les images, il y a une voix off qui nous explique que s'il y avait eu un donneur, il aurait pu rester en vie. On écoute.
Oui, on peut ne pas se résigner et faire en sorte que finalement, ce ne soit pas la mort qui gagne, mais la vie.
Et le film se termine en rappelant que l'on est tous donneurs présumés si on le souhaite. Et moi, j'en profite pour rappeler que sur l'application santé de l'iPhone, on peut se déclarer en tant que donneur.
Changement de ton, Rebecca, avec la campagne d'affichage d'Hollywood Chewing Gum qui nous rappelle qu'en ce moment, avec le masque, eh bien, notre bouche ne nous aura jamais paru aussi proche de notre nez.
C'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, sous notre masque, l'odeur elle a tendance à s'intensifier un petit peu. Donc la campagne conçue avec l'agence Marcel s'appelle hashtag Mâcher Masqué. Il s'agit de plusieurs affiches au ton humoristique. Par exemple, on pourra lire des phrases comme 16h10, votre masque est un four. Oui, vous avez bien besoin d'un coup de frais. Ou encore, oui, c'est bien votre haleine que vous sentez. La campagne d'affichage sera en ligne sur les réseaux sociaux et à la télé jusqu'à décembre.
Merci Rebecca Blanc-Lelouch pour ce tour de l'actu. Tout de suite, on parle des Guéretti Awards dans Hebdo.com.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et notre invitée aujourd'hui, c'est Alexandra Evan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de Publicis Conseil. On va revenir avec vous sur les Guéretti Awards, puisque vous étiez membre du grand jury. Le palmarès a donc été dévoilé cette semaine. 22 pays ont été primés. Les agences françaises ont remporté 2 golds, 3 silvers et 2 bronzes. Comment se situe la France dans le classement par rapport aux agences internationales ?
Elle se situe très bien. Il faut savoir que c'est un classement très inattendu parce que nous voyons des pays émerger à la tête du classement qui n'étaient pas avant aussi représentés. Mais dans ces palmarès, la France se trouve bien et avec des campagnes, ma foi, très intéressantes, très diverses. Voilà.
Et parmi les, justement, il y a dans les pays qui ont été le plus primés, il y a l'Inde.
Oui.
Qui effectivement n'est pas un pays qu'on connaît très bien publicitairement. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait émerger ce pays ?
Bon, je pense que d'une façon générale, en fait, ces palmarès montrent à quel point la diversité est nécessaire et salutaire à des grandes campagnes et à la création de la créativité aujourd'hui. Et l'Inde, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein d'insights culturels qui paraissent spécifiques et qui peuvent devenir universels. Et parfois, on ne les voit pas, tout simplement parce qu'on ne baigne pas dans la même culture. Et cette année, on a vu des pièces venant d'Inde qui paraissaient pensées exclusivement pour l'Inde et qui finalement peuvent être répliquées avec d'autres pays parce qu'elles sont d'une grande utilité pour les gens, parce qu'elles sont émotionnellement puissantes ou parce qu'elles sont des façons de nous s'éduquer civiquement d'une façon qui n'est pas forcément répressive. Et en ce moment, on a besoin de ça.
Mais je crois qu'il y a une campagne particulière en Inde qui vous a plu, venant d'Inde.
Absolument. Alors, donc, c'est une marque de savon que peut-être on ne connaît pas en Europe, qui s'appelle Lux, qui est une marque de savon des grandes mères que je connais depuis des décennies.
Oui, il faut être vieux pour la connaître, mais Marie la connaît pas.
Et en fait, cette marque a eu une idée extrêmement intéressante. En Inde, les femmes, elles sont beaucoup mal à se relationner à leur corps et à leur nudité. Et donc, en fait, ils ont créé une design de savon qui a une protubérance comme celle qu'on peut ressentir dans son sein quand on a un cancer au sein ou quand on a en tout cas quelque chose qui doit être dépisté. Et en fait, à la base, ça a été conçu justement parce que les femmes ont du mal à s'approprier leur corps, chose qui n'arrive pas nécessairement aux Européennes ou aux Françaises, et que les moments de la douche, c'est les seuls moments où on touche son corps. N'empêche, cette idée, elle est universelle parce que qu'on découvre pas son corps avec la même fréquence que les Indiennes, les moments de la douche et le fait d'avoir cet objet dans ses mains nous pousser à toutes, en fait, à réfléchir de que c'est un moment dans lequel on peut faire un palpage et c'est extrêmement mémotechnique, une idée très puissante, simple et qui a changé, en fait, la forme même du produit.
Du produit, oui.
Drake.
Oui, oui. Mais justement, alors, dans le palmarès, il est très RSE, il est très dans les causes. C'est quelque chose qu'on voit aussi d'ailleurs à Cannes. Ça s'est encore renforcé avec la période qu'on vit en ce moment.
Moi, je pense qu'en effet, ça s'est renforcé, mais je pense qu'il y a quand même des différences. C'est-à-dire qu'on est plus dans les purpose pour les purpose. On change pas juste apporter un grand message. On doit être utile. On doit être vraiment changé des comportements. Donc, on commence à préciser.
C'est l'engagement par la preuve aussi, c'est ça ?
Absolument. Et donc, en fait, ça donne des campagnes beaucoup plus intéressantes que juste des marques en train de dire partagez ou soyez forts.
Et vous pensez pas à un moment que les consommateurs vont un peu saturer toutes ces campagnes sur l'engagement ?
Ah, mais si elles sont des paroles en l'air et si c'est juste des discours très hauts, mais évidemment, enfin, c'est une évidence. Mais si c'est quelque chose de concret et utile à la société, ça donne un rôle aux marques. Parce que la réalité, c'est qu'il s'agit d'avoir un rôle et toutes les marques n'ont pas besoin d'avoir un discours à 10 000 km d'altitude, mais on a toutes les marques ont besoin d'avoir un rôle dans la vie des gens. Et en effet, et différentes marques se relationnent différemment et on commence à voir des marques qui ont trouvé un peu les rôles qu'ils peuvent jouer et la utilité qu'ils peuvent avoir pour les gens.
Et le prix, le grand prix, c'est pour l'utilité, c'est quelque chose, puisque c'est ce hamburger Burger King qui est pourri et qui montre que par conséquent, il n'y a pas de conservateur. Quoi.
Absolument. Pour moi, c'est une campagne extraordinaire à plusieurs égards. Les premiers, c'est que c'est une campagne co-créée par 4 agences de 2 groupes de communication différents. Et c'est très intéressant de montrer que c'est possible, en fait, de co-créer. La deuxième chose, parce qu'effectivement, on se rend compte de par les réactions et la polémique qu'elles génèrent, que nous-mêmes, en tant qu'humains, on s'était coupé de ce que c'est que la nourriture. Donc, en fait, au-delà de la marque, il y a une véritable utilité. Et c'est l'utilité aussi de servir d'éclaireur à la façon comme nous devons approcher des choses qui sont absolument normal et naturel et que nous ne voyons pas d'une façon naturelle et normale, en tout cas pas nous tous puisque les opinions étaient divisées, mais cette division d'opinion permet un débat qui est salutaire sur qu'est-ce que c'est que quelque chose qu'on mange.
Alors les Guerrity Awards, c'est un jury 100% féminin, qu'est-ce que ça change?
Alors, je pense que c'est intéressant, surtout, ça change les regards, ça change des... C'est d'abord des professionnels, en fait, de la communication et de la publicité, et qui portent un regard sur des pièces créatives, et ça change surtout, ça envoie un message sur le fait de que la représentativité, de la même façon qu'on parlait de la diversité tout à l'heure, mais la diversité est multiple, et que la représentation et la représentativité des professionnels de la publicité et doit être aussi étendue à qui que nous soyons et dans ces cas aux femmes. Donc c'est un regard que leurs fondateurs ont décidé de porter et qui est assez salutaire en ce moment.
Alors oui, justement, en parlant des femmes, le secteur de la pub est confronté justement en ce moment à une libération de la parole des femmes. Le mouvement avait commencé avec MeToo, il se poursuit aujourd'hui avec le compte Instagram Balance ton agency. Quel regard portez-vous sur ce phénomène?
Moi, je pense que c'est un phénomène absolument salutaire. Je crois que les leaders d'une nouvelle génération doivent penser à un monde dans lequel les filles qui sont plus jeunes n'aillent plus à vivre des choses qu'on a vécues, garçons ou filles d'ailleurs, dans des façons de travailler, dans des façons de s'exprimer, dans des façons de s'engager à l'autre. Et surtout, c'est très important que les gens qui ont ces pratiques comprennent qu'ils sont plus la place dans la société, que ce soit dans la publicité ou ailleurs, et que ce type de comportement ne sont plus des misses dans nos sociétés.
Et en l'occurrence, dans la publicité, c'est encore quelque chose qui est effectivement prégnant aujourd'hui. Les agences disent tous, et d'ailleurs toutes, pardon, et d'ailleurs on le voit dans ce que vient d'annoncer la ACC, qu'elles se sont engagées à mettre fin à ces pratiques, et manifestement c'est pas le cas encore. Là, on est encore un peu dans le discours de la preuve, non? Enfin,
en fait, en réalité, je pense que, en tout cas, les agences que j'ai connues et que j'ai côtoyées en France, elles sont toutes avancées sur le sujet. Et la question, c'est que c'est un chemin qui est long, parce que c'était des pratiques très ancrées. Il va falloir
changent.
Du temps, mais il va falloir les faire. Et donc, en fait, il faut passer par un process difficile et il faut que les dirigeants, comme moi-même, nous soyons prêt à affronter ça, prêt à bouger les lignes, à bouger aussi, parce que attention, il y a aussi tous les compléments du travail qui doit être fait en interne pour récupérer ça et les transformer en action, parce que plusieurs de ces témoignages sont salutaires parce qu'ils sont anonymes, ils sont difficiles pour un dirigeant pour agir derrière parce que la plupart sont anonymes. Mais n'empêche, on doit recréer le pont qui permet que le complément s'efface, c'est-à-dire que les gens aillent cet espace pour s'exprimer, mais qu'ils aillent aussi la confiance dans la structure dans laquelle il est pour se dire qu'en fait sa parole est respectée, sa parole va être écoutée et qu'effectivement notre volonté à tous, c'est qu'on aille un environnement de travail libre de ce type de pratiques. Et donc dans ça, les moyens qu'on met en œuvre pour développer ça et pour qu'il y ait des véritables actions doivent évoluer.
Merci Alexandra et Evan d'avoir été avec nous. La vice-présidente de Publicis Conseil était aujourd'hui sur notre plateau.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et notre chroniqueuse Charlotte Bricard de la rédaction de CB News nous a rejoint. Bonjour Charlotte.
Bonjour Marie.
Alors Charlotte, vous allez nous donner faim aujourd'hui puisque vous nous parlez de Quick. Et puis il n'y a pas si longtemps, on le rappelle, dans la Burger War, eh bien le numéro 2, ce n'était pas Burger King, mais c'était Quick.
Oui, c'est vrai. Quick qui fête cette année ses 50 ans et qui fait un peu figure de rescapé puisque la disparition de l'enseigne avait été annoncée par le groupe Bertrand qui est également propriétaire des Burger King en 2015 lors du rachat de la marque. Mais c'était sans compter sur l'énergie du condamné visiblement et peut-être sur les coûts de transformation des points de vente qui semblent avoir eu raison de l'intention de Burger King d'enterrer son concurrent. Il devrait rester une petite centaine de Quick d'ici à la fin de l'année, ce qui nous permet de fêter ce demi-siècle sans avoir à passer par un nouvel avis de décès. Ce qui est une bonne nouvelle en ces temps. Quick naît donc en 1970, pour la petite histoire, en Belgique. C'est Maurice Coe, qui est président du groupe de distribution GB, qui se lance sur ce marché prometteur, mais encore balbutiant, en installant sur le parking du Grand Bazar d'Anvers le premier enseigne de restauration rapide. Ça aurait pu être Fast, ce sera Quick. 10 ans plus tard, le succès est tel que le grand Q débarque en France pour concurrencer le Big M. Les choses vont vite et bien. Et il faudra moins d'une décennie pour que l'Hexagone devienne le premier marché de la France. Les années 90 sont marquées d'ailleurs par une série de rachats qui sont signe de ce développement. 20 restaurants au Kitsch, par exemple, une cinquantaine de Free Time.
Et dont aussi des Burger King.
C'est vrai. Dont le plus grand, d'ailleurs, sur les Champs-Élysées. Rappelons qu'à l'époque, c'est en fait Quick et McDo qui se disputent en effet les faveurs des Français qui ne laissent pas de place à un troisième petit. Et qu'en 97, le roi du Whopper baisse le rideau et quitte l'Hexagone. Pendant ce temps-là, Quick joue les trublions en innovant face au ronronnant Ronald et en misant sur de nouvelles recettes qui viennent côtoyer le Giant. On citera notamment le fameux Quick and Toast qui se vend à 2,75 millions d'unités en 94 lorsqu'il est lancé et à plus de 13 millions 20 ans plus tard.
Et côté communication, ça donne quoi alors Charlotte ?
Eh bien, Quick mise sur le goût. Vous vous rappelez peut-être un goût plus fort que tout. Entre vous et nous, c'est une histoire de goût. Nous, c'est le goût. Encore plus récemment, le goût d'en faire plus. Il s'appuie surtout sur ses expérimentations produits, du long burger au finger food, en passant par les restaurants halal de la chaîne qui défraient la chronique en s'intéressant à ce segment du marché jusque-là délaissé. Il faut dire qu'à l'époque, on est en 2010, Quick commence à perdre un peu la frite, ses ventes stagnent, certains de ses restaurants ferment et opération sauvetage dans certains quartier populaire, il se convertit au halal. C'est un succès qui s'étend à une vingtaine de restaurants, mais qui ne suffit pas à raviver la flamme. Les Belges se lassent, Quick est à vendre. La Caisse des dépôts et des consignations rachète pour la bagatelle de 800 millions d'euros. Et sur fond d'accusations d'escroquerie et d'abus de confiance, Quick devient français.
Et le succès n'est pas franc, pas autant justement.
Non. Et le retour fracassant de Burger King, sous l'impulsion du groupe Bertrand en France, précipite la chute des restaurants rouges et blancs. En 2015, le groupe annonce le rachat des 395 Quick de France et son éradication à la surface de l'Hexagone à l'horizon 2020. C'était sans compter sur les performances inattendues d'une poignée d'irréductibles et la décision en conséquence du groupe Bertrand de les sauver des eaux et potentiellement de les remettre sur le marché au plus offrant en fin d'année. Bref, on n'enterrera pas si Quick, si vite, si quick, comme vous voulez.
Merci Charlotte Bricard pour cet édito. Allez, pour ne pas rester sur sa fin, on continue avec les hamburgers. Zoom tout de suite sur la communication d'une chaîne de restauration rapide, celle du numéro 2, Burger King.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le directeur marketing de Burger King France, Alexandre Simon, nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la marque Burger King est connue pour avoir ce ton décalé. Vous communiquez avec beaucoup d'humour. Pourquoi ce choix ?
Alors, je pense que ça fait partie tout simplement de l'ADN de Burger King. Burger King est une marque qui est à la fois créative et également humoristique, non ? Et je pense que c'est vraiment lié au positionnement de la marque, cette promesse de marque qui est sur ce qu'on appelle le plaisir authentique et accessible à tous. Plaisir authentique parce que, on l'a vu avant avec la campagne du Moldy Whopper et aussi parce que manger un bon burger grillé à la flamme avec des ingrédients frais, la tomate, les oignons découpés en restaurant, c'est bon. Et accessible à tous parce qu'on a 350 restaurants. Donc, on a est accessible quasiment partout en France, et également parce que on est accessible en prix. Un menu Whopper, c'est 7,50 €, le menu enfant, c'est 4 €. Donc, en fait, globalement, cette promesse d'accessibilité du plaisir authentique, c'est ce que on veut communiquer dans tous les points de contact.
Avec
que
humour.
Ce soit avec humour,
ouais.
Parce que le plaisir, c'est l'humour, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans la communication. Et souvent, j'aime ce parallèle, c'est que c'est comme dans une société. Dans une société, vous avez des gens qui font un métier très utile, très rationnel, des chercheurs, des médecins, des soignants, on le sait en ce moment. Et de l'autre côté, vous avez des humoristes, des artistes qui font un métier tout aussi important parce qu'en fait, ils donnent du plaisir aux gens. Et en fait, équilibrer le rationnel et l'émotionnel, c'est ce qu'on veut finalement dans la vie. Et le rôle de Burger King, c'est d'apporter ces petits moments de plaisir.
Alors, depuis le début du mois, pardon, on peut voir sur nos écrans votre deuxième publicité avec Fred Testo qui a revêtu donc son costume de commandant de bord. On écoute un morceau et puis on en parle juste après.
Mesdames et messieurs, c'est à nouveau votre commandant de bord. Ladies and gentlemen, Captain speaking again. Nous traversons une nouvelle zone de turbulence. We are COVID turbulencing. But don't panicos, Burger King is protecting. Masque, gants and pchit-pchit.
Woo! Thank you for écouting me, gracias. And see you soon, chez Roi Sandwich. Sacré des merdes.
Alors, c'est la première fois que vous faites appel à une personnalité. Pourquoi avoir choisi Fred Testo?
Alors déjà, la base, c'est de savoir ce qu'on communique, en fait, et pourquoi on le communique. Et en fait, quand on a regardé, après le confinement, quelles étaient les attentes des consommateurs, et des concitoyens en général, mais des consommateurs Burger King, nous ont dit, il y a trois choses. On a besoin, premièrement, que vous nous rassuriez sur les mesures qui sont mises en place dans les restaurants, parce qu'on a envie de venir consommer chez vous, mais rassurez-nous sur le fait que les mesures sanitaires sont mises en place, dont les équipements de protection, la distanciation, les nettoyages. Deuxièmement, si on n'a pas envie de venir dans vos salles parce qu'on a toujours peur, rassurez-nous sur les canaux qui sont les canaux existants. Donc on le voit derrière avec le drive, la vente à emporter, le delivery. Et c'est des éléments qui sont importants puisqu'il faut savoir que ça représente plus de poids dans les ventes aujourd'hui. Et en fait, le troisième élément que nous a donné le consommateur, c'est il nous a dit, voilà, j'ai aussi besoin un peu d'amour en ce moment, j'ai besoin d'empathie. Tout le monde communique d'une manière qui est quand même très rationnelle. Et donc comment vous pouvez continuer à faire du Burger King parce que c'est ce que je veux. Et en fait, quand on s'est dit, ben voilà, il faut communiquer des choses qui sont très rationnelles, mais en même temps, comment on peut le faire de manière empathique, ben naturellement, on est arrivé à cette proposition avec Fred Testo, qui est quand même très original, parce qu'on communique un message très sérieux, mais de manière pas du tout anxiogène.
Alors, ce qui est quand même particulier, c'est que moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que justement cette période dramatique qu'on est en train de traverser, et singulièrement le confinement, j'ai l'impression que Burger King et Bosman, votre agence, parce que j'imagine qu'il y a quand même une complicité assez forte entre les deux, non seulement vous n'êtes pas arrêté, ce qui est assez rare, mais vous êtes déchaîné quand même.
Alors, peut-être qu'on s'est déchaîné ou qu'on a cette sensation parce que d'autres ont moins fait.
Peut-être, oui.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a fait beaucoup de choses. Par contre, j'insiste, et c'est un point avec Bosman qu'on défend ensemble, c'est qu'on fait des choses qui ont du sens. Pendant le confinement, on a vu des images avant, on a communiqué sur le burger de la quarantaine. Nos restaurants étaient fermés, donc on a donné la possibilité aux consommateurs de faire les recettes de Burger King chez eux. À la reprise, on a vu les communications avec Fred Testo qui ont du sens quand on regarde, et toujours dans ce positionnement du plaisir en fait. Également, on a fait une campagne en septembre qui est une campagne qu'on appelle Burger Mystère, qui est du prix de la promo, mais les gens en ont besoin aussi parce qu'on doit aussi défendre le pouvoir d'achat, parce qu'on est une marque accessible, mais on le fait toujours de manière différente.
Donc il y a une logique en fait à chaque fois quand vous sortez une campagne.
Il y a toujours du sens dans ce que l'on fait. On ne communique pas pour communiquer et on communique toujours en essayant de trouver ce juste équilibre entre une forme qui est sympathique et puis quelque chose qui fait progresser la marque à chaque fois.
Alors vous nous disiez, pardon Frédéric, en préparant cette interview, c'est pas parce que les restos sont fermés que la marque est morte, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps rester actif pour exister.
Je pense qu'une marque, et souvent on l'oublie quand on fait du marketing, c'est un actif, c'est une personne. On la développe, on travaille pour qu'elle se différencie et on ne peut pas dire si on travaille sur une marque que la marque disparaît quand on ferme nos restaurants. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le consommateur, il continue à être engagé avec les marques sur les réseaux sociaux. La marque, elle continue d'exister. Donc on ne peut pas dire, voilà, je ferme mes restos, la marque disparaît, je recommunique. Non, parce qu'une marque, c'est autre chose qu'un business. C'est aussi une relation avec des consommateurs, des relations de confiance. Et je pense qu'en effet, on doit continuer à communiquer de manière juste, bien sûr, en apportant un message. Et nous, encore une fois, pendant le confinement, on a essayé d'avoir un message qui était clair. C'était d'inciter les gens à rester chez eux, parce qu'on est une marque responsable. Donc tout ce qui a été fait, on s'est même moqué de nous. À un moment, on a fait un tweet en disant aucune erreur de commande depuis 2 mois, puisque c'est souvent ce que nous reprochent les clients. Et à la sortie du confinement aussi, on a eu de l'audace. On a fait des tweets en disant, par exemple, à tous nos consommateurs qui veulent revenir chez Burger King mais qui ne veulent pas porter le masque, merci de rester chez vous. Donc il y a vraiment de l'audace, il y a du fond dans ce qu'on fait.
Et ça marche ? En fait, la question, c'est est-ce que justement le fait que vous n'ayez pas cessé de parler, de communiquer pendant le confinement, le fait que vous ayez repris très vite les commandes comme ça, ça marche sur le plan du business, que à la fin
si
c'est bien le.
Alors, si ça marchait pas, je serais plus là.
Ouais.
Mais au-delà de ça, ce qui est vrai, c'est que c'est une marque qui est en croissance. On a aujourd'hui 350 restaurants. On en avait 50 en 2015, moins de 50 en 2015. On communiquait pas en médias. Aujourd'hui, on est une marque qui existe. Donc oui, ça marche. C'est une marque qui se développe.
Quel est l'impact du couvre-feu, par exemple, en ce moment ?
Alors, ce que l'on voit, c'est quand même, c'est une année extrêmement difficile cette année, je pense, pour tout le monde. On vit une sacrée année de merde, comme on l'a vu dans le spot de Fred Testo, et on l'a dit parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce que pensent beaucoup de gens. On a vu, en gros, plusieurs étapes. Premièrement, on a fermé complètement les restaurants. Donc là, forcément, c'est la première fois, nous et puis toute la restauration, c'était la première fois qu'on ne faisait aucune vente. Ensuite, on a réouvert les restaurants. Et ce qui est compliqué, c'est de faire revenir des consommateurs dans les restaurants parce qu'il a perdu l'habitude. Donc c'est chez nous, c'est en restauration traditionnelle. Dans le groupe Bertrand, ça a été la même chose. On a travaillé, on a communiqué, on a choyé le client et le business est revenu. En septembre, on était revenu à un rythme de business très proche du pré-Covid. Et là, bien évidemment, il y a le couvre-feu. Donc, de nouveau, je pense que on est tous des consommateurs, des concitoyens. On est inquiets. Et forcément, ça impacte de nouveau le business. Et je pense qu'on va avoir des prochains mois compliqués. Mais encore une fois, nous, ce que l'on souhaite, c'est continuer à communiquer pour garder ce lien, continuer à faire rire nos consommateurs. Et parce que ce qui se joue, c'est la défense du business, bien sûr, à court terme, mais c'est aussi le post-Covid. Le Covid, en fait, c'est un peu comme, vous savez, une voiture de sécurité dans les circuits de Formule 1. La course est arrêtée, il y a la voiture de sécurité qui rentre, tout le monde garde les positions, mais en fait, les distances se réduisent. Et en fait, en fonction de la stratégie qu'on va mettre en place, on va peut-être avoir la possibilité de gagner des places. Alors nous, on ne gagnera pas de place, mais en tout cas, de gagner le cœur des consommateurs et surtout de continuer à exister, parce que je pense que, et spécialement en ce moment, le lien émotionnel avec les consommateurs, il est vital.
Merci Alexandre Simon, le directeur marketing de Burger King France, était avec nous. On va tout de suite tous aller acheter un sandwich. Merci également à l'expert du secteur Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à nos côtés. Il a déjà le sandwich dans la bouche. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.